au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et Christian, on a Joe qui est en ligne. Joe, bonjour. Est-ce que vous croyez au Bigfoot?
Absolument pas. Mais je trouve ça tellement capturant que j'écoute tout le temps ça. Je trouve ça intriguant.
Mm-hmm.
Moi, c'est un natif québécois puis canadien. Mais c'était fait une histoire qui est intéressante. Puis Christian Page, je le trouve tellement extraordinaire que c'est, avec, on va dire ça, des affaires impossibles. Là.
Merci.
Mais c'est merveilleux. Tout ça, non, je ne crie pas à ça. Moi, je suis un homme de gars qui m'a créé à ça quand on va avoir des preuves, qu'on va trouver des ossements, comme vous avez parlé tantôt, des ossements qu'ils ont trouvés peut-être en Chine ou des genres de choses de même.
Oui, oui.
Mais allez, c'est quand même, c'est beau pour les enfants. Je trouve que j'aime bien ça. J'aime ça, mais je ne crie pas à ça.
Ben, merci beaucoup, Joe, d'avoir appelé.
Merci, ouais, Joe.
Oui, oui, oui.
Ça fait des bons films, de la bonne littérature aussi, ça fait vendre. Mais vous allez aimer, Joe, le prochain bloc, le bloc actuel, parce que justement, on va aborder les preuves.
Les preuves, justement, Joe parle, dit, je vais y croire quand on aura des preuves. Et lorsque l'on parle du Bigfoot, le Sasquatch, peu importe, puis là, on va essayer de se concentrer sur la partie nord-américaine. L'une des pièces, on pourrait dire que les preuves tournent autour de quatre pôles en particulier. On a d'abord les preuves photographiques, les images. On a des preuves audio. On a également des moulages et ensuite, on a les preuves biologiques, donc des poils, des excréments et tout ça. Donc, on va passer en revue, si tu le veux bien, l'ensemble de ces preuves-là.
Oui.
Commençons d'abord par la preuve visuelle, la preuve photographique. Et là, évidemment, on frappe fort parce que c'est la pièce de résistance. Pour les gens qui nous écoutent, si ces gens-là s'intéressent de près ou de loin aux histoires du Bigfoot ou du Sasquatch, ils ont tous vu le film qu'on appelle le film Patterson-Gimlin. C'est un petit film de 59 secondes. Les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle, simplement prendre votre moteur de recherche, taper simplement Bigfoot et Patterson avec deux T et vous allez vite tomber sur ces images. Donc, je te rappelle un peu le contexte dans lequel on va tourner ces images-là, parce que c'est vrai qu'elles ont été tournées le 20 octobre 1967. On est donc aujourd'hui 50 ans plus tard et le film est toujours au centre d'une controverse. Donc, je te rappelle un peu les événements. Nous sommes en 1967, on est en septembre 1967. On vient de découvrir dans la région, dans le nord de la Californie, un endroit qui s'appelle à Blue Creek Mountain. Médias, les journaux parlent qu'on a trouvé des empreintes de poches géantes que l'on associe au Sasquatch ou au Bigfoot. Et il y a à Yakima, dans l'État de Washington, un type qui s'appelle Roger Patterson. Patterson est un magouilleur de première. Je n'irais pas jusqu'à dire un escroc, mais c'est un magouilleur. Mais il s'intéresse réellement au Sasquatch. Hein? Dès qu'il y a une gamique, hein, pour utiliser une expression québécoise, dès qu'il y a une gamique pour faire de l'argent, Patterson est là. Mais il s'intéresse au Bigfoot, au Sasquatch. En 1966, il a même publié un petit ouvrage à compte d'auteur qui s'intitulait « Est-ce que l'abominable homme des neiges de l'Amérique existe? »« Do abominable snowmen of America do exist? » Donc, il publie ce petit ouvrage-là à compte d'auteur. Il y croit et il est convaincu qu'à un moment donné, il va faire fortune avec ça. Et là, lorsqu'il entend parler de ces histoires d'empreintes qui ont été découvertes à Blue Creek Mountain, Roger Patterson, je le rappelle, un magouilleur de première. L'ambition de faire fortune raconte autour de lui qu'il a justement l'intention de faire un petit documentaire sur le Sasquatch, qui va vendre ça, qui va faire du fric avec ça. Donc, il entend parler de cette découverte d'empreintes. Il décide de louer une caméra 16 mm. Et là, il va demander à une connaissance. Ce n'est pas un ami vraiment, une connaissance. Un type qui s'appelle Robert Gimlin. Lui, ce type, Robert Gimlin, qui habite également à Yakima, lui, tout à fait l'inverse de Roger Patterson. C'est un individu qui n'a absolument rien à se reprocher. Tout le monde pourrait se... Sa parole, c'est quasiment parole d'évangile, comme on dit par ici. Là. Tu vois, donc, ce Robert Gimlin est un type au-dessus de tout soupçon. Ce Robert Gimlin est un sang mélangé, un métis. Il est bien connu pour sa façon de traquer des animaux en forêt. Et ce Robert Gimlin a des chevaux. Alors, ce Roger Patterson s'en va le voir. Il dit à Bob Gimlin, est-ce que tu veux m'accompagner? On va aller essayer de voir pour filmer le Bigfoot, faire un truc. Donc, nos deux bonhommes partent. Ils arrivent dans la région à la mi-octobre 1967. Ils vont décharger, ils ont une camionnette avec un...
équipement de tournage, etc.
En fait, ils ont simplement une
caméra 16
on pourrait. Donc, on transporte deux chevaux avec nous. Donc, on défait les chevaux et ils entreprennent de patrouiller le secteur à 12 chevaux. Et voilà qu'il va se produire l'impensable. Le 20 octobre, et là, je te raconte l'histoire telle qu'ils l'ont racontée.
Oui.
Le 20 octobre 1967, ça fait déjà une semaine et demie à peu près qu'ils sont dans la région. Ils patrouillent à dos de cheval à la recherche de ces empreintes, de cette créature. Ils ont trouvé des empreintes, ils essaient de suivre la piste. Et voilà que ce 20 octobre 1967, on est un vendredi, en début d'après-midi, et voilà qu'alors qu'ils arrivent tout près du lit asséché d'une petite crique qui s'appelle Bluff Creek, on est toujours dans le nord de la Californie, le cheval de Patterson est né. Patterson est désarçonné par la levée de son cheval. Il tombe sur le sol. En se relevant, il la voit. La créature est tout près de lui. Il saute immédiatement sur le cheval. Il y a dans le sac que porte le cheval, il y a cette petite caméra 16 mm. Il la prend. Il part à courir en direction de la créature et il filme en même temps qu'il court. Donc, les 20 premières secondes du film nous montrent qu'un homme qui court. Donc, on ne voit absolument rien. On ne voit qu'un paysage qui sautille à la caméra. Et après 20 secondes, Patterson s'arrête. Et là, durant les 35 secondes qui suivent, on voit relativement bien une créature qui correspond à la description d'un Sasquatch, oui. Créature qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 de haut, couverte de poils. Elle a une poitrine, donc c'est une femelle. Et à un moment donné, alors qu'elle marche, elle se tourne en direction de Roger Patterson. Pendant ce temps, Bob Gimlin, à dos de cheval, lui essaie de contourner la clairière. Il tire il y a comme un harnais, il tire de ce harnais une carabine 30-30. Et son idée n'est pas de tirer sur la créature, mais de tirer dans les arbres pour la forcer à changer de direction pour permettre à Patterson de la filmer plus longuement. Mais à ce moment-là, il entend Patterson qui lui dit « Je n'ai plus de film dans ma caméra. » Il faut se rappeler qu'on est avec une petite caméra 16 mm. C'était des bobines de film de 3 minutes. Patterson avait déjà utilisé 2 minutes en prenant des prises de vue d'arbres et de n'importe quoi. Il restait 1 minute de film. Et c'était compliqué changer de film. Hein? Il fallait mettre la caméra dans un sac dans l'obscurité.
Absolument.
Et y aller à tâtons, charger la pellicule. C'était trop long. Donc, Patterson dit à Gimlin, il lui crie « Je n'ai plus de film dans la caméra ». Et Gimlin, donc, laisse la créature s'éloigner, disparaître entre les arbres. Ce petit bout de film est devenu le film le plus... En fait, pour les amateurs de cryptozoologie, on va même jusqu'à comparer ce film de Roger Patterson et de Bob Gimlin, on va jusqu'à le comparer aux films Zapruder, hein, le film qui montre l'assassinat du président Kennedy. On le considère presque comme une pièce historique. Ce film-là a été analysé de toutes les façons possibles. On n'arrive pas à déterminer si c'était un trucage ou non. Robert Gimlin, ça serait difficile d'imaginer que Patterson ait fait une fraude en utilisant un type dans un costume sans que Bob Gimlin soit au courant. Et Bob Gimlin, bien sûr, n'a jamais changé sa version. Et comme je te l'ai mentionné, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. D'imaginer que Patterson ait fait une fraude, aucun doute, c'est possible. Mais que Robert Gimlin ait pris part à cette fraude, ça, c'est plus discutable.
Okay.
Et avec les années, des gens ont dit, c'est moi le gars qui était dans le costume. Il y a plein de gens qui ont sorti, dont notamment à la fin des années 90, il y a un type qui s'appelait Bob Hieronymus. Il est sorti de l'ombre en disant, j'étais le type dans le costume du film Patterson. Le problème, c'est qu'il dit que Patterson lui avait offert 1 000 $ pour faire le film. Il n'a jamais été payé. Et Roger Patterson est mort en 1972. Pourquoi Bob Hieronymus a-t-il attendu à la fin des années 90 pour dire qu'il était le type dans le costume alors que Patterson devait le payer en 1 000 $, qu'il l'a pas fait? Et là, ensuite, quand on regarde les proportions, ça fonctionne pas. Ce Bob Hieronymus ne mesure pas 6 pieds 6. Pour qu'il puisse être le gars dans le costume, il aurait fallu que les avant-bras soient des avant-bras postiches, alors que sur le film, on voit bien que la créature bouge les doigts. Il y a plusieurs éléments qui fonctionnent pas. Mais le film est excessivement controversé. Et une des grandes raisons pourquoi il est très controversé, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres images? C'est-à-dire que Roger Patterson tourne ce film en 1967 avec une pellicule 16 mm, alors qu'aujourd'hui, et c'était compliqué à l'époque dans les années 60 de filmer ou de photographier, il fallait avoir la pellicule, le bon appareil, etc. Alors aujourd'hui, tout le monde a des appareils qui peuvent filmer, des appareils portables, des téléphones mobiles, et pourtant, on n'a jamais de bonne image, jamais de bonne photo, et on nous ramène toujours à ce vieux film des années 60 de Roger Patterson.
Et sur la côte ouest américaine, Christian, combien faudrait-il de spécimens pour que le Bigfoot ou le Sasquatch au Canada soit viable?
Donc, c'est ça. Donc, à défaut de parler d'une réalité zoologique, il y a quand même des éléments sur lesquels on doit réfléchir. Et les biologistes reconnaissent que, uniquement pour les États-Unis, on n'inclut pas la Colombie-Britannique, mais uniquement lorsque le pays du Sasquatch, parce qu'il faut le dire, on a observé des Sasquatch dans tous les États américains, sauf l'île d'Hawaï. Et c'est vrai également au Canada. On a vu des Sasquatch, on a des récits partout au Canada, sauf à Terre-Neuve. Or, uniquement pour l'endroit où on a eu le plus d'observations, c'est la côte ouest américaine, du nord de la Californie à l'État de Washington. Et uniquement pour ces deux États ennemis, disons, il faudrait avoir une population de 3000 spécimens, 3000 individus, pour avoir une population viable. On peut donc se supposer qu'on le verrait plus souvent, on aurait de meilleures images que les images sautillantes tournées par Roger Patterson.
Clairement.
Il y a 50 ans.
Et il me semble qu'il n'y avait même pas de gros plan dans ce film-là.
Non, il n'y a pas de gros plan.
Évidemment. Dans un instant, on va parler avec André. Est-ce que vous croyez au Bigfoot? 514-790-9850, 1-866-790-9850. On revient dans 3 minutes.